Majesté, à toi la majesté, à Jésus, sois louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, ton règne vient. Sur tous les tiens, exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et célébrons Jésus-Christ le roi. Majesté, à toi la majesté. À Jésus, et puis je ne sais plus, excusez-moi. Quand j'ai vu Tate, Bobby, Tataï, regarde, j'ai perdu mes moyens. Bonjour Steven. Bon, voilà. Je lis devant moi, dans Jean, au chapitre 13, « Soyez bénis ». Soyez bénis, mes amis. J'espère que la parole de Dieu sera votre consolation, vous donnera la paix et vous donnera l'assurance. Elle vous rassurera. Parce que, de par ma nature, en réfléchissant à tout ce qui se passe, mais je ne suis pas le seul, les choses ne sont pas brillantes sur cette Europe et sur ce monde. Mais dans le Seigneur, j'ai tout espoir qu'il y a une réponse. Il y a une réponse. Elle n'est pas chez les hommes politiques, elle n'est pas chez les scientifiques, elle n'est pas chez les philosophes. Il y a une réponse chez le Seigneur. Jean chapitre 13, verset 31, « Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. » Si Dieu a été glorifié en lui, donc en Jésus-Christ, le Fils de l'homme, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Ah, c'est une expression extrêmement importante. Parce que cette gloire de Jésus-Christ, cette gloire du Père, c'est aussi ce qui nous est attribué. Alors, ça c'est chapitre 13, verset 31. Et si nous allons au chapitre 17, c'est un thème majeur, hein, la doxa en grec, la gloire de Christ. Chapitre 17, « Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel, donc vers son Père des cieux, et dit, « Père, l'heure est venue, donc celle qui est prévue depuis toute éternité, depuis le péché d'Adam et Ève. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Donc, Dieu a donné pouvoir sur toute chair. Chers amis, comment? Vous savez, on peut lire la Bible de manière sentimentale. On peut la lire avec, aussi avec la foi, avec le cœur, et des fois ne pas trop comprendre ce que ça veut dire. Et j'essaye d'être là pour ça, j'essaye, car moi-même aussi je dois chercher, méditer, prier, et me consacrer à cela. Tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Cette expression-là, dans Jean chapitre 17, verset 2, est capitale et on peut trouver une explication. Dans Romains, chers amis, dans l'épître aux Romains, c'est une clé, c'est, si vous voulez, l'épître dans la Bible, c'est la clé de voûte. Une voûte en pierre de taille, quand on fait un coffrage et qu'on pose toutes les pierres, on met du mortier ou du sable avec de la chaux, puis à un moment donné, on termine, il n'y a plus qu'une à mettre pour clôturer, elle doit être bien coincée, c'est la clé de voûte. J'ai déjà fait des arcades, j'ai déjà fait des voûtes en pierre de taille, et quand elle est bien mise, bien calée, vous pouvez démonter le coffrage tout de suite, le moule. Toute l'arcade se tient d'elle-même. Tout repose sur les piliers, dans les murs, dans les contreforts dans les murs, mais la clé de voûte, la pierre finale, c'est celle-là qui va subir la plus grande pression, c'est celle-là qui doit tenir. À la résistance, elle doit tenir le coup, à la grande résistance de tout. N'oubliez pas qu'on a fait des ponts qui ont duré des centaines d'années, des siècles. En pierre de taille, et la clé de voûte était essentielle. Regardez le pont du Gard et bien d'autres ponts, même en Assyrie, à Babylone et tout ça, un peu partout, dans toute la grande Rome. Et nous avons aujourd'hui inventé le béton et les ferrailles, mais si un jour nous n'avons plus le béton, les centrales à béton, nous avons toujours les pierres. Nous referons des arcades avec des clés de voûte. Alors, donc, vous avez entendu ce que je viens de vous lire. Ce que je viens de vous lire dans Jean, c'est que Dieu a donné le pouvoir à Jésus. Oui, il a donné le pouvoir, un pouvoir à Jésus, qui est extrêmement important. Chapitre 17 de Jean, verset 2, « Tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Bon, maintenant, au verset 4, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Alors, de quelle œuvre s'agit-il et comment Christ a-t-il glorifié son Père? Et comment nous fait entrer entrer dans sa gloire? Romains. Romains, chapitre 5, verset 12. Comme par un seul homme, le péché, donc l'opposition à Dieu, l'acte d'indépendance, la sécession, si vous voulez. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché est entré la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, jusqu'à la loi de Moïse, mais après il continue, mais ce qu'il y a, il est dénoncé, c'est différent. Avant, il n'était pas dénoncé, et on pouvait encore pécher en se donnant une belle excuse, je ne vois pas ce que Dieu m'interdit. Mais après, avec les 10 commandements de Moïse, c'était clair, c'était une tache en figure si on commettait un péché grave. La mort, au verset 14, a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Il n'en est pas, verset 15, il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Voilà l'œuvre de Christ, la grâce, c'est-à-dire le pardon, le rachat suivi du pardon. Voilà l'œuvre de Christ. Alors, verset 17, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, donc dépendance du pardon de Christ, parce qu'ils ont foi dans le sacrifice de Christ pour eux. J'espère que c'est pour vous comme pour moi. Et à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, donc le don du pardon du péché, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, c'est-à-dire de réparation par la mort de Jésus et par le pardon qui s'ensuit, par un seul acte de justice, la justification, c'est-à-dire innocenter les personnes, c'est ça, justifier les personnes, c'est les déclarer sans non coupables. La justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, Jésus-Christ, beaucoup seront rendus justes. La loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. La grâce règne par la justice. Le pardon de Dieu, le sacrifice de Christ à la croix règne, oui, parce que effectivement, il y a un rachat qui a été fait et il y a une déclaration d'innocence, de non-culpabilité faite au pécheur du haut des cieux et qui est mis dans le livre de vie. Donc il y a eu un jugement. Un jugement qui permet à la personne d'être réconciliée avec Dieu. Et donc, le péché régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle. Jésus-Christ, donc, nous donne la vie éternelle. Mais quelle est l'œuvre vraiment? Parce que c'est assez, c'est quand même intriguant. Vous comprenez, au chapitre 17 de Jean, je reprends les versets. Tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Alors, eh bien, quand Jésus est tabassé, humilié, qu'on le meurtrit de tous les coups possibles, qu'on lui met une couronne d'épines et qu'on l'emmène à la croix, qu'il est crucifié, qu'il souffre là pendant 6 heures, qu'il agonise pendant 6 heures, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde tous les pécheurs qui sont autour de lui et il pardonne. Il invoque son Père pour eux. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il pardonne. La preuve, il a dit au brigand, aujourd'hui tu seras dans mon paradis. Il pardonne. Tout quiconque a entendu cette parole de Jésus adressée au brigand pouvait dans son cœur demander aussi pardon et recevoir ce pardon. Alors, c'est le pouvoir de pardonner. C'est le pouvoir d'être là sur terre et de pardonner. Tout de suite. Voilà l'œuvre de Christ. C'est lui l'auteur du pardon. C'est lui le rédempteur. Et donc, je lis dans Romains chapitre 6, verset 3, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Lorsque Jésus-Christ est cloué sur la croix et qu'il agonise et qu'il meurt tout d'un coup, qu'il rend son dernier souffle, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. C'est-à-dire, nous avons été immergés, nous avons été pris et nous avons été portés par Jésus à ce moment-là. Les marques des clous dans les pieds, les mains, dans de la lance dans les côtés, sont les marques du péché de notre vie. Et Christ a porté notre péché, il a porté le châtiment de notre péché, et il a pardonné. Voilà le pouvoir que Jésus a eu. C'est un pouvoir surnaturel, tout puissant, que Dieu seul a. Je relis Jean 17, verset 2, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. L'œuvre de Christ est de prendre sur lui ma pauvre nature déchéante, déchue, égarée, mensongère, égoïste, vaniteuse, impure, adultère, de la prendre sur lui, de se mettre à notre place sur la croix et de subir le châtiment et la colère du mérité. Il est donc l'auteur d'un salut admirable. Il a le pouvoir de prendre notre place et de nous acquérir la propitiation de nos péchés, c'est-à-dire la disparition de la colère de Dieu et l'expiation de notre péché, le paiement de la dette. Alors je prends Romains, chapitre 3. Romains, chapitre 3. Au verset 9, « Quoi donc, sommes-nous plus excellents les uns que les autres ? Non, nullement, nous avons déjà prouvé, tous, juifs ou non-juifs, que nous sommes sous l'empire du péché. » Donc, il y a un empereur, hein, c'est Satan. « Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul, nul n'intelligent, nul ne cherche Dieu. » Nul n'intelligent, nul ne cherche Dieu. « Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » C'est dur tout ça, n'est-ce pas? Tout cela se trouve dans des psaumes. Ce sont tous des versets de l'Ancien Testament. C'est déjà la manifestation du Saint-Esprit qui dénonce la nature du péché. Alors, leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sous leurs lèvres un venin de serpent, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume, ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route, ils ne connaissent pas le chemin de la paix, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Voilà. Nous savons que tout ce que dit la loi, donc l'Ancien Testament, avec la Torah, les 10 commandements, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera pardonné, justifié devant lui par les œuvres de la loi, en obéissant aux 10 commandements. Puisque c'est par la loi que vient, se manifeste la connaissance du péché. Mais la loi n'a jamais empêché quelqu'un de pécher. Elle n'y est pas arrivée. Elle a juste fait prendre conscience et parfois elle a créé des troubles. Le péché était même plus puissant après. Chaque fois que c'était interdit, il y en avait parmi nous, je pense qu'on est comme ça tous, on s'y met, on redouble d'intérêt pour le péché parce que c'est interdit. Transgresser est un plaisir chez l'homme. Vous savez bien que Satan avait proposé ça à Ève. Tu verras, tes yeux souffriront, et tu auras du plaisir, ça sera agréable à tes yeux. Oui, la transgression est agréable sur le moment. Après, l'affliction est mille fois pire que le petit bonheur qu'on a eu. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire de tout ça? C'est que au verset 23, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement justifiés, donc déclarés pardonnés, par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc l'expression « tous sont privés de la gloire de Dieu », Romains chapitre 3, verset 23, c'est un constat. Comme un médecin qui dirait « Monsieur, vous avez le cancer, c'est irrémédiable ». Et puis, où je roule en voiture comme un fou, je fais n'importe quoi, j'ai bu, je me suis drogué, je tue quelqu'un, et je nie tout. Mais il y a des témoins, les policiers sont là, ils ont tout vu, il y a des caméras. Monsieur, vous êtes complètement fautif. Vous êtes coupable jusqu'à l'os. Et donc, je perds toute gloire. Je suis confondu, je suis fautif, je suis coupable, j'ai transgressé. Donc, qui peut me donner la gloire que j'ai perdue ? Christ. C'est pour ça qu'il dit « Je serai glorifié de la gloire que je t'ai glorifié. Je serai glorifié. Pourquoi ? À la résurrection. À la résurrection, Christ nous couvre de sa gloire. Il nous couvre de sa bénédiction. Et donc, nous sommes en Christ redevables d'un cadeau formidable, c'est d'être pardonné et ensuite d'être glorifié. Alors, j'en arrive à Romains 8. Tout ça, c'est des raccourcis, parce qu'il faudrait prendre des semaines, ou en tout cas 2-3 journées pour expliquer ces passages de l'Épître aux Romains. Romains chapitre 8, verset 28. « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Donc l'image glorieuse, sans péché. Être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Ceux qu'il a prédestinés, les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, les a aussi justifiés, donc déclarés innocents. Et ceux qu'il a justifiés, les a aussi glorifiés. C'est le verset 30, Romains 8, 30. Il les a aussi glorifiés. Un chrétien est sous la gloire de Christ, est plongé dans la gloire de Christ, dès le moment où il a accepté Christ. Il est héritier de la gloire de Christ qui se manifestera, il sera un jour clair devant tous les anges, devant le trône de gloire de Dieu, que cette gloire de Christ va se manifester d'une manière formidable en nous. Mais pour le moment, croyez-vous, êtes-vous convaincu que vous avez reçu intimement, spirituellement, puissamment, pour l'éternité, cette gloire de Christ? Avez-vous conscience de cet immense privilège? Il y a eu le pardon? Oui, il y a eu le pardon que Jésus a acquis par son sang. Puis il y a l'absence de colère sur nous, que Jésus a pu régler grâce à son sang. Et puis il y a la gloire. La gloire nous est acquise pour toujours. Donc, dans ce verset, dans Romains chapitre 8, verset 30, je le relis, « Ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés les a aussi justifiés, donc innocentés, et ceux qu'il a justifiés les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Vous voyez à quel point Paul est heureux d'avoir été appelé, d'avoir été pardonné, justifié et d'être glorifié. Il a reçu en lui la gloire de Christ. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui déclare juste. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu ressuscité. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Verset 37, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà l'œuvre de Christ. Voilà le pouvoir de Christ. Il est immense. C'est l'auteur de notre salut. On peut donc lire avec humilité, avec sincérité, avec modestie, avec amour, les textes de la Passion. Nous avons commencé mercredi soir, puis hier, jeudi soir, ici dans la maison à 20h à quelques-uns, et puis aujourd'hui encore, ce sera ce vendredi à 20h. Et à 20h, nous allons lire, nous allons aller dans Marc chapitre 14, 15 et 16. Alors, je vais prendre un peu de temps pour faire quelques commentaires sur Marc 14, 15 et 16. Ici, mes chers amis, il y a beaucoup de vie. Tout le monde n'a peut-être pas écouté les autres jours, mais Il y a énormément de vie, mais énormément de responsabilités aussi. Énormément de tâches, énormément de, parfois de fatigue aussi. Et il y a beaucoup de prières. Nous prions beaucoup et nous avons besoin de vos prières. Pourquoi? Parce qu'il y a donc quatre femmes adultes, un garçon de 11 ans et quatre adolescentes et un bébé de 8 mois, un petit garçon de 8 mois. Mais depuis lors, il est venu dans le village, dans une maison très gentille, très accueillante, il est venu aussi une dame avec un enfant de 10 ans et qui viennent régulièrement ici à la maison parce ils connaissaient les Ukrainiens qui étaient ici. Ils sont parents avec une jeune femme d'environ, je pense, 32, 33 ans. C'est moi qui juge, hein. C'est certainement ça. Donc, nous voilà ici généralement avec une bonne douzaine de personnes. Et puis, sachant que dans notre église, il y a une ukrainienne, il y a un russe, sachant qu'il y a dans la région 3-4 personnes qui nous aiment beaucoup, par le russe et l'ukrainien, et qu'on peut faire recours à ces personnes quand on veut, elles viennent, eh bien, notre salle de culte a été reconvertie aussi dans une classe d'école, et il y a 18 personnes adultes qui viennent de la région ici, des Ukrainiens et Russes, pour apprendre le français. Donc d'un côté l'école, avec 19 personnes, de l'autre côté dans la salle de culte, 19 personnes. Vous voyez que notre maison, de nouveau, est dans la grâce comme avant, et que l'autorité communale n'a pas brisé notre vocation. Nous avons été en sursis un certain temps, mais on ne s'est jamais découragé. Nous sommes heureux de marcher dans ce sens tous les jours. Marc chapitre 14. La fête de Pâques et des pains sans levain devaient avoir lieu 2 jours après. Les principaux prêtres et les scribes cherchaient moyen d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir, car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Oui, le peuple était pour Jésus, mais le peuple est toujours fragile. On influence le peuple comme on veut. Il y a de ça, 4 à 5 mois, Monsieur Arnaud, c'est un riche monsieur en France, partageait le repas avec quelqu'un à table. Ce quelqu'un m'a répété les paroles qu'il a dit. Mais nous savons, nous, les riches, que Monsieur Macron est notre président. Nous soutiendrons, il passera. Il y a déjà 5 mois. Il passera, Monsieur Macron. Vous voyez à quel point les hommes sont rusés et parlent déjà dans le dos du peuple. Ils choisissent. Ils choisissent. Et le peuple n'a pas grand-chose à dire. On oriente les opinions du peuple parce que le peuple est fragile, mal informé, etc. Et donc, c'est ce qui se passe là. Il faut savoir que les prêtres et les scribes sont des pharisiens d'une secte sévère, plutôt intégriste, mais qui normalement ne devrait pas avoir de responsabilité en Israël, ni dans le temple, ni à Jérusalem. Pour David et ses successeurs, c'est tous ceux qui descendent de Sadoc, du prêtre Sadoc, qui doivent être les prêtres et les lévites. Et Sadoc, ça donne les Sadducéens. Mais les Sadducéens ont résisté aux Grecs, à Antiochus et Épiphane. Donc on ne peut pas les remettre au pouvoir religieux, on ne peut pas les remettre au contrôle de la société, parce qu'ils pourraient mener la barque contre Hérode, contre Rome. Donc Hérode et Rome ont choisi de satisfaire à la vindicte, à l'orgueil, à la vanité des autres, des pharisiens, et qui veulent garder leur place. Mais Jésus n'a jamais été d'accord. Jésus a manifesté son désaccord tout de suite. Ils n'étaient pas à leur place. C'étaient des hypocrites, des sépulcres blanchis, des races de vipères. Jésus n'a jamais accepté qu'ils soient là. C'était pas là qu'ils devaient être. Et donc, puisqu'ils dérangent, il va falloir trouver une astuce pour le liquider. Verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. « Acabons perdre ce parfum, on aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. 300 journées de travail. » Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous, vous ne m'avez pas toujours. » Donc, cette femme a honoré Jésus-Christ, le Messie. Et tous ceux qui étaient là n'étaient que des fauchetons. Et cette femme était entièrement une adoratrice. Entièrement. Elle ne draguait pas Jésus, comme certains ont écrit des livres. Elle l'était, pleine de déférence pour Jésus, pleine de respect. Elle a mis une fortune là, une fortune entière. Vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Donc, voici la signification que Jésus donne à ce geste. Elle a prophétisé ma mort et m'a mise au tombeau. Voilà la signification prophétique du geste. Donc, Jésus, ici, certifie qu'il sera exécuté et mis au tombeau. Je vous le dis en vérité. Partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Partout où la bonne nouvelle sera prêchée. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est tellement simple d'oublier tout, chaque fois. Mais je me plais à le répéter. 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile, la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu moi-même, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, Ancien Testament. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, sur le mont Tabor, en Galilée. Ensuite, il apparut à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il apparut à Jacques, puis à tous les apôtres, et après tous, il m'a apparu aussi à moi, l'avorton. Donc, c'est Paul qui a tué des chrétiens. Fait tuer. Alors, nous voyons bien que la bonne nouvelle s'est répandue dans le monde, oui. Oui, c'est l'exécution, c'est la réalisation de Matthieu 28. Allez, faites des disciples de toutes les nations. Oui, ça s'est fait. Alors que Jésus était mis en échec totalement, que Jésus disparaît et monte au ciel, et qu'il a l'impression qu'il arrête son travail, c'est pas vrai. Il n'a rien arrêté, il est vivant. Il a dit, j'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 18 à 20. Donc il est toujours à l'œuvre, il est toujours là. Mais on ne le voit pas. Et la force de ceux qui ont la foi, c'est de l'aimer sans l'avoir vu. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint dans les vrais chrétiens. Et donc, lorsque les chrétiens annoncent Jésus mort et ressuscité pour les péchés, ils annoncent aussi cet acte prophétique. Ils parlent de cet acte prophétique de cette femme. Parce qu'elle est un symbole de la grande foi. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Continuons, verset 10, Marc 14, 10. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Alors, nous avons ici Judas Iscariote. Mais si vous vous rappelez ce qu'on a lu tout à l'heure, il faut se poser des questions. Il faut voir clair. Jean 13. Jean 13, Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. Il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Réalisation du psaume 41 au verset 10. 1000 ans avant. Donc Jésus, je connais ceux que j'ai choisis. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe alors? Il y en avait quand même 12. Alors Jésus n'en avait choisi que 11, et le 12e, il n'avait pas choisi. Et ça peut arriver, vous savez. Même dans la meilleure église, qu'il y a des gens qui sont là, on se demande comment ils sont arrivés là. Et auprès de Jésus, il y avait 11 personnes formées par Jean-Baptiste, qui avaient appris que le Messie venait et qu'il réalisait les Écritures. Et quand Jean-Baptiste leur a désigné « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », Jean-Baptiste leur a donné un ordre, « Suivez-le avant de quitter moi. » Il y en avait 11. C'est ceux qui sont restés après la mort et la résurrection. Ils avaient été fondés dans les prophéties de l'Ancien Testament. Le 12e vient de Jérusalem, et c'est un rénovateur de société. C'est un mai 68 de l'époque. Il veut que tout bouge et tout change. Et il lui semble que le leadership de Jésus est intéressant pour faire tout changer. Donc, il s'ajoint au groupe. Et Jésus ne le rejette pas. Pourquoi Jésus ne le rejette-t-il pas? Parce que de toute éternité, il le connaissait. Il savait que cet homme le vendrait pour 30 deniers et l'embrasserait au Mont des Oliviers, le trahirait. Dieu sait tout de nous. Dieu sait tout de nous, chers amis. Alors, s'il nous a appelés, soyons près de lui, unis à lui. Si nous sommes dans une église et que nous n'avons pas été appelés, nous n'avons pas été touchés par la grâce, nous n'avons pas reçu le pardon des péchés, il est encore temps de demander pardon pour ces péchés, d'aller voir les responsables et de prier avec eux, de lire la Bible, se la faire expliquer, pour que les frères et les sœurs prient pour vous, car il n'est pas possible de rentrer dans le royaume des cieux par soi-même, par intrusion. Il faut y être invité. Le mot « église » vient de « ekkaleo ». Le verbe veut dire « appeler »,« appeler », »,« venu », à sortir d'un milieu pour rentrer dans l'ecclésia, l'assemblée de Jésus-Christ, des appelés. Il faut être appelé. S'il vous arrive, parmi vous, d'être dans une église, vous ou un de vos amis, et qui n'a pas été appelé, il est là, il s'y plaît bien, il est là, ça fonctionne, ça ronronne, ou il a la bougeotte, il change, il va voir un peu à droite et gauche. Comme on change, on va à l'Intermarché, on va au Champ, on va chez Leclerc. On change de boutique de temps en temps, mais on revient toujours. Pourquoi? Est-on réellement appelé? Il faut prier pour ces personnes. Il faut prier pour ces personnes. Parce qu'elles n'ont pas encore été appelées ni choisies. Mais si elles sont là, au moins, il faut qu'elles ouvrent les yeux sur elles-mêmes et qu'elles sachent que Jésus est mort pour leurs péchés. Et s'ils l'acceptent, alors oui, il y a rédemption. Acceptent. En acceptant aussi l'autorité du Saint-Esprit et de la parole de Dieu, évidemment. Le salut ne vient pas seulement de la repentance. Le salut inclut l'obéissance au Saint-Esprit et à la parole de Dieu. Et le scellement par le Saint-Esprit. Donc ici, nous sommes dans Marc chapitre 14. Je retourne à le texte. Verset 10, Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux prêtres afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Tout système Marche avec la délation, chers amis. J'ai un jour été interrogé dans le temps, parce que j'étais responsable d'un comité d'occupation d'usine, j'ai été interrogé à la police judiciaire. Et dans le bureau où j'étais, il y avait 15-20 personnes, et elles étaient toutes en train d'éplucher des lettres en silence, toutes des lettres de délation. Chers amis, tous les systèmes pour tenir la foule ont besoin de délateurs. Il y a toujours des délateurs. Il y a toujours des gens pour aller tirer dans le dos aux autres, faire des lettres anonymes ou des lettres signées, ou des coups de téléphone anonymes. Eh bien, c'était le cas, et il n'y a rien de neuf sous le soleil. Ça existe toujours. Et ça marche bien. Façon de parler, bien sûr. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Eh oui, de l'argent. Ce qui trouble les consciences, n'est-ce pas, l'argent? Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ?» Il envoya deux de ses disciples et leur dit « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. » Où qu'il entre, dit au maître de la maison, le maître dit « Où est le lieu où je mangerai la Pâque et mes disciples ?» Un homme avec une cruche d'eau sur la tête ou sur l'épaule, c'est rare. C'est toujours la femme qui fait ça. Mais sans doute est-il veuf, seul, seul peut-être avec des enfants, ou seul, vraiment seul, ou sa femme est-elle malade. Toujours est-il que c'est un signe distinctif énorme, parce que les autres hommes n'avaient pas une cruche, portaient pas une cruche d'eau. Donc Dieu déjà savait que dans telle rue, dans tel quartier de Jérusalem, il y avait un homme qui allait chercher de l'eau avec une cruche. C'est un détail qui nous montre bien que Dieu est au courant de tout. Alors, verset 15, il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête, c'est là que vous nous préparerez la Pâque. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville, et ils trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Alors, vous savez qu'il va y avoir l'institution de la Sainte Cène dans les versets qui vont suivre, versets 22 à 25, et la Pâque, bien sûr, la Pâque juive, c'est pas encore ce jour-là. C'est pas ce jour-là. Là, lorsque nous parlons de cela, nous sommes le jeudi saint. Jésus va être arrêté au soir, et puis interrogé la nuit, condamné au matin, crucifié vendredi à 9h du matin, il va mourir à 3h l'après-midi. Donc, tout compte fait, la Pâque juive commence après la mort de Jésus. Il meurt à 15h, on le met dans le tombeau, et c'est à 18h que commence la vraie Pâque. Alors, comment se fait-il que Jésus et ses disciples célèbrent déjà la Pâque? Puisque ce n'est pas encore la Pâque. Eh bien, on a retrouvé dans les écrits de Qumran que un certain nombre de rabbins qui étaient à Qumran pratiquaient la Pâque déjà 2-3 jours avant pour marquer leur désaccord avec ce qui se passait au temple, parce que la Pâque était célébrée au temple, était célébrée par les pharisiens et ils n'étaient pas les descendants légitimes de Sadoc. Il y avait donc un acte significatif, symbolique, chez un certain nombre de juifs, de pratiquer la Pâque juive 1, 2, 3 jours avant pour montrer qu'ils étaient en désaccord avec la Pâque célébrée par des imposteurs. Ceci étant dit, il faut savoir que je ne veux pas dire que Jésus était essénien et que ses apôtres étaient esséniens. Mais toujours est-il qu'il y avait en Israël une forme de non-alignement sur les religieux, les chefs. Alors, je voudrais vous dire ceci, chers amis. Quand vous prenez les versets, surtout en France, je rencontre cela, c'est un gros problème pour moi. Il faut obéir aux autorités. Mais chers amis, surtout vous, Français, depuis qu'il y a eu le Covid, obéir aux autorités. Et si c'était le cas, pourquoi Jésus et ses disciples pratique-t-il la Pâque, non pas le jour de Pâque, mais avant? Est-ce qu'ils obéissaient aux autorités? Ne mettons pas tout sous ce verset « obéir aux autorités ». Soyons nuancés. Quelle est la vraie autorité? C'est celle du Saint-Esprit. J'insiste là-dessus, pour que vous ne vous fassiez pas piéger dans les mois qui vont venir, vous, chers amis français, en France. Obéir aux autorités, l'autorité, c'est le Saint-Esprit pour commencer, non pas l'homme. On peut prier pour les autorités, on peut avoir du respect, mais obéir, il faut y mettre nettement des nuances. Continuons, après cet acte de la Sainte Cène, où Jésus dit, au verset 25, « Je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Jésus a donc dit qu'il reboirait du fruit de la vigne, du raisin, n'est-ce pas, du jus de raisin. Et il n'a pas dit que ce morceau de pain devenait son corps, que ce vin devenait son sang. Il n'a jamais dit qu'il y avait une transsubstantiation. Ça, c'était au XIIe siècle en Europe. Anselme de Cantorbéry et Thomas d'Aquin, qui ont allongé et accouché de telles pensées. Continuons. Verset 26. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Donc, c'était le lieu de prédilection de Jésus, où il allait souvent prier avec ses disciples, ou prier seul. Et c'est toujours là qu'il allait, généralement, quand il était en Judée. Et les cantiques, eh bien, c'est des cantiques que nous avons dans les psaumes. Un certain nombre de psaumes parlent naturellement de la Pâque, célèbrent cette Pâque. C'est un peu trop long peut-être à vous expliquer aujourd'hui. Je pense que j'aborderai peut-être ce sujet un jour. Mais toujours est-il qu'il y a des psaumes, il y a des cantiques chez les Juifs qui sont en relation étroite avec la Pâque. Alors, au verset 27, Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, c'est-à-dire vous allez trébucher et même tomber. Il est écrit, je frapperai le berger, les brebis seront dispersées. Donc c'est dans Zacharie, chapitre 13, verset 7. Et effectivement, le berger disparaît, les brebis sont perdues. Le berger va ressusciter, il va aller chercher ses brebis. C'est ça, le vrai berger. Lisez Jean chapitre 10. Lisez le psaume 23. Lisez Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 34 et 35, chers amis. Alors, quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Ce qui fut dit, fut fait. Pierre se fait un film et se croit plus fort qu'il n'est. Et il dit au verset 31, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous dirent la même chose. Pourtant, Jésus vient de lui dire, « Aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. » Chers amis, Dieu connaît notre faiblesse et il vient en aide à notre faiblesse. Il n'y a pas de chrétien super costaud. L'expérience du chrétien, c'est sa faiblesse. C'est dans ta faiblesse que je me glorifierai, a dit Jésus à Paul. Ma grâce seule te suffit. Et donc, nous ne pouvons pas, chers amis, espérer être de super costaud. Il faut admettre nos faiblesses. Et nous épauler les uns les autres et prier les uns pour les autres. Si nous n'avons pas cette humilité, nous échouerons toujours. Nous tombons dans la présomption, ou alors nous tombons tout simplement un jour dans l'oubli de Dieu. Nous fonctionnons comme chrétiens, comme l'église d'Éphèse, sur nous-mêmes, en boucle, et nous n'avons plus l'amour de Christ. Nous fonctionnons comme avec l'étiquette de chrétien, suivant une morale chrétienne, et puis c'est tout. Il n'y a pas d'amour pour Christ. Et ça, c'est un peu catastrophique, c'est pas ça que Dieu a voulu. Donc, nous sommes si faibles, chers amis. Romains 8, verset 26, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » L'Esprit Saint intercède en faveur de nous, chers amis, et ça c'est clair, il fallait que Pierre et tous les autres soient brisés, comme nous également. Ça c'est tôt ou tard, ça arrive à tout chrétien réellement appelé par Jésus-Christ, brisé, pour être relevé. Comme dit David dans le psaume 119, « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Tu n'as point de cœur, tu n'as point de mépris, des os que tu broyas, du cœur contrit. » Vous voyez? Donc, cet événement qui paraît une gifle à Pierre va devenir une grâce. Parce que après Pierre va être formidable dans son ministère. Il ne trahira plus jamais. Parce que l'Esprit Saint sera le grand cadeau qui lui sera fait. L'être brisé peut comprendre la valeur du don du Saint-Esprit. Mais l'être orgueilleux, vaniteux, qui prétend avoir reçu le don du Saint-Esprit, peut confondre les vessies et les lanternes, et avoir reçu un esprit venu de Satan, qui lui laisse croire qu'il a reçu le Saint-Esprit. Et il faut faire attention. Dans le véritable esprit de l'Évangile, nous traversons la gloire et les souffrances de Christ. Et nous avons besoin du soutien de Dieu dans notre faiblesse pour découvrir la grandeur de sa grâce. Alors au verset 32, ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » C'est ce que nous avons fait, avec, nous étions quatre hommes, nous sommes assis là, et puis à un moment donné, on a commencé à pleurer, mais comme des enfants. Et on pleurait, et ça coulait. On était subjugués spirituellement par ce qui s'était passé là. Nous étions touchés, bouleversés, et nous avons pleuré pendant 10 minutes. On ne savait pas s'empêcher. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous avons fait l'expression, nous avons fait l'expérience de la pauvreté des trois autres apôtres, Pierre, Jacques et Jean. Ce jour-là, nous avons vraiment fait l'expérience de la grande pauvreté et de la grandeur de notre ami, de notre grand frère Jésus-Christ à côté de nous. À la fin de cette expérience de brisement, hein, où chaque fois il s'écroule dans un sommeil plutôt sous l'attaque de Satan, qu'est-ce que Jésus vient dire ? Au verset 41, « Dormez maintenant et reposez-vous, c'est assez, l'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Levez-vous, allons. Derrière Jésus, chers amis, écoutons ces paroles. « Levez-vous, allons. » J'en reste à cela aujourd'hui. Levez-vous, allons. Nous, chrétiens, derrière Jésus crucifié et ressuscité, entendons. Levez-vous, allons. Marc, chapitre 14, verset 42. Que ce verset vous encourage, vous dynamise, vous touche pleinement. Au nom de Jésus, Amen. À lundi 18h. et bonne fête de Pâques.